Voilà, que Dieu soit béni. Avec tristesse, nous allons finir l'histoire de David. Et nous lisons donc dans 1 Roi. Au chapitre 2. Alors, il est écrit ceci, 1 Roi chapitre 2. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Voilà la première partie de l'héritage que David laisse à Salomon. Il lui laisse l'héritage comme tous les anciens avant lui ont laissé aux autres, c'est de suivre l'Éternel. Donc avant de mourir, David dit à Salomon que personne ne te trompe. C'est l'Éternel qu'il faut suivre, obéir, observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Vous voyez que depuis déjà ce temps-là, les Écritures, aux yeux de Dieu, avaient une valeur spéciale, la valeur la plus importante, puisque David dit à Salomon, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, ce n'est pas juste un problème de révélation personnelle, parce qu'aujourd'hui, nous entendons des gens qui disent, « Ah, mais je fais telle vision, je reçois tel message, je reçois. Vraiment, le Seigneur me parle. » Mais ce n'est pas cette forme de parole qui est la forme la plus importante. La forme la plus importante demeure les Écritures. Et même David dit à Salomon, tu dois suivre les commandements tels que c'est écrit dans la loi de Moïse. Donc il y a une continuité, c'est les Écritures que Dieu a laissées à Moïse et plus tard aux prophètes. Donc là, nous sommes encore à l'étape où c'est Moïse qui a laissé les écrits. Et nous entendons David dire, il faut suivre selon la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Ça nous rappelle ce que Dieu aussi a dit à Josué au chapitre 1er. On connaît le chapitre, verset 8. Voilà, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de vivre fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est la même chose que David dit à Salomon, le nouveau roi. Il dit, il faut suivre cela. Et c'est le même conseil que je donnerai à chacun. Tout passe, mais la parole de Dieu ne passe pas. Donc, il y a des moments où ceux qui suivent la parole semblent être les derniers, semblent être ceux qui échouent. Et on regarde avec parfois tristesse ou étonnement ou incompréhension les gens qui n'ont pas la parole, qui réussissent. Là, aujourd'hui, on montre sur Internet ou à la télé la nouvelle voiture du joueur de Paris Saint-Germain, Ibrahimovic. une voiture de 800 000 euros. Et le chrétien qui regarde ça, il dit, mais juste dans le football, il a ça. Et il ne fait rien avec ses 800 000 euros, il utilise, il achète une voiture. Alors que nous, on veut sauver les âmes, on a besoin d'argent pour construire, pour faire ceci, pour faire cela. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut regarder ça avec incompréhension. Bien-aimé, on comprendra tout plus tard. Ce qui est sûr, le grand héritage qu'on peut laisser à quelqu'un, c'est obéir au commandement de l'Éternel. Attache-toi à Dieu. Si vraiment ces choses-là étaient importantes, Dieu nous les aurait données. Aujourd'hui, Dieu lui-même dit, je bâtis mon œuvre. C'est lui qui bâtit. Maintenant, si nous estimons que ça ne se fait pas comme ou rapidement ou comme d'une manière efficace, ça c'est nous qui le pensons. Dieu, lui, il est responsable de son œuvre, il sait ce qu'il fait. Voilà. Et c'est la parole de Dieu qu'il faut léguer aux gens. On se souvient aussi de Jésus, avant de s'en aller, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer à tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, tout ce que je vous ai prescrit, enseignez cela. L'apôtre Paul, avant de se séparer des anciens d'Éphèse, il leur dit, je m'en vais, peut-être qu'on ne se reverra plus, mais je vous recommande à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Voilà. C'est toujours le même héritage que les vrais héros de la foi, les vrais gens de Dieu lèguent à ceux qui viennent après eux. C'est la parole de Dieu, suivre les recommandations du Seigneur et lui être fidèle. Et maintenant, nous arrivons à la deuxième partie, verset 5. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Avner, fils de Ner, et à Maza, fils de Jeter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait aux reins et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai. On se souvient de Barzillai, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent à ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au devant de moi lorsque je fouillais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, Benjamite de Bakourim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, « Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Voilà la deuxième partie de recommandation de David. Qu'est-ce qu'on en pense? Deuxième partie des recommandations de David. Tu sais ce que a fait Joab, fils de Tseruja. Ce qu'il a fait à deux des chefs de l'armée, eh bien, tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance Barzillai et le Galadite. Et Shimei, il faudrait aussi le punir. Il faut que ses cheveux descendent ensanglantés dans le séjour des morts. Alors, qu'est-ce que... Oui, Ginette? Oui, ça marche.
Il va selon la parole de Dieu, en tout cas, parce qu'il dit, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Et Joab, il avait tué deux hommes qui étaient dans un état innocent à ce moment-là. Et puis, bon, David veut s'assurer que la parole va s'accomplir, tu sais. Il y aura ce que la parole dit. Si tu tues par l'épée, tu seras...
Voilà,
en
donc...
En tout cas pour Joab.
OK.
Et puis, il y avait une autre chose.
Oui, oui.
On avait parlé de Shimei, et puis on avait dit, David avait dit, ben, si c'est la volonté de Dieu qu'il m'insulte, ben, qu'il m'insulte. Et il a dit qu'il n'était pas pour le tuer, mais il ne l'avait pas oublié quand même pour les insultes qu'il avait faites, même s'il avait pardonné. Et il veut que son fils...
Donc, une question vient là. Est-ce que là, David, il se venge? Voilà,
ouais,
la question,
ouais,
c'est ça.
Ouais.
Est-ce qu'il se venge? Oui, Nelisha.
Moi, ce que je comprends, c'est qu'il ne se venge pas, mais il prévient son fils des dangers, du côté dangereux de ces personnes-là. À partir du moment qu'ils ont pu... faire ça en sa présence, il peut le faire aussi avec lui en tant que roi.
Voilà, donc il y a, ça c'est le côté stratégique. Donc il dit à son fils, attention, tu as deux ennemis très dangereux, il y a Joab et Shimei. Donc il ne faut pas, en quelque sorte que, il ajoute un mot qui est important, il dit « tu agiras avec sagesse ». Parce que si ce n'est que pour les tuer comme ça, de tuer, mais il dit « mais il faut agir avec sagesse, tu agiras avec sagesse ». Et par la suite, on a vu qu'ils n'ont pas été tués non plus directement. Quand on lit la suite de l'histoire, Salomon, quand David est mort, n'est pas parti chercher Joab, n'est pas parti chercher Shimei pour les tuer. Donc, il a agi avec sagesse. Il avait placé une interdiction à Shimei en disant, si tu romps l'interdiction, tu seras mort. Ah, ben, c'est ce qui s'était passé. Donc, il y a ça. Et Joab s'était une fois de plus associé à Adonija pour faire un coup à Salomon. Donc, il a subi la même sanction qu'Adonija, la mort. Maintenant, quand David donne ces instructions-là, il y a la partie stratégique que Nelisha vient de relever, c'est qu'il y a deux personnes qui sont dangereuses. Il faut veiller à ce que tu puisses les avoir, toi, le premier. Sinon, ils t'auront en quelque sorte. Il faut qu'ils soient morts. Maintenant, il y a le côté, s'il n'y a pas d'autres interventions, il y a le côté prophétique, jugement de Dieu. Je ne pense pas que David se venge. David ne se venge pas. David était aussi un prophète de Dieu et il pouvait, en tant que prophète, décréter les jugements de Dieu, dire comment ce que Dieu a décidé sur quelqu'un, donc sous forme de jugement. Donc le prophète n'est pas là seulement pour nous prêcher, nous redresser et nous dire ce qui va peut-être arriver, mais il est là aussi pour dire les jugements de Dieu, comme Pierre avait parlé concernant Ananias et Saphira. En disant, vous allez mourir. Ce n'était pas comme si Pierre les tuait, puisque dans tout ce qu'on a vu dans les Écritures, il n'y a que ce seul exemple où Pierre use d'une telle décision, voilà, de dire, vous allez mourir. Donc c'est quelque chose, il a été un interprète de Dieu. Et c'est la même chose que là, David était un interprète de Dieu pour... venger pour puisque dans Romains 13 c'est écrit que quand le magistrat utilise l'épée pour tuer, c'est au nom, c'est pour venger, pour que Dieu l'utilise. Donc en fait c'est la vengeance de Dieu qui passe par le magistrat sur celui qui a tué quelqu'un d'autre. Voilà. Et Joab, comme la sœur Ginette l'a fait remarquer, c'est que il est en train de subir la loi de Moïse. Celui qui a tué doit être tué. Et il a tué Avner et Amasa en temps de paix. Ce n'était pas la guerre, c'était en temps de paix. Mais on se souvient de la phrase de David, il ne pouvait pas attaquer Joab de front parce qu'il se sentait faible vis-à-vis de cette famille-là, ces Rougeants. Parce que Joab n'était pas seul, il était avec deux frères très très forts. Et c'était une famille puissante à côté de David, et il ne pouvait pas, lui, les affronter directement. Ça allait vraiment bouleverser son royaume. Alors, il a préféré prévenir Salomon, dit, tu agiras avec sagesse, il y a un danger. Là, c'est la partie stratégique. Mais il y a le côté aussi jugement. Joab a mal fait, il doit être jugé. Il doit mourir. Donc c'est la sentence de Dieu, c'est le jugement de Dieu que prononce le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu, qui était David. Voilà, oui, question.
Ah oui, pasteur, il y a une chose que je vais comprendre. Quand David a promis à Shimei qu'il ne devait pas le tuer, il avait pris l'engagement au nom de l'Éternel. Mais maintenant, ma question était de savoir...
Au nom de l'Éternel, comment ?
Parce que le verset dit, il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. David D'accord. a juré au nom de l'Éternel.
Okay.
Mais est-ce que plus tard encore, il change ? Est-ce que Dieu, quand il promet quelque chose, et puis quelques années ou bien, il peut changer
non,
encore ?
Non, mais jurer au nom de l'Éternel, c'est-à-dire c'est jurer devant l'Éternel. Ce n'est pas prendre la place de Dieu. Il dit, je jure au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, je jure devant Dieu que je ne te tuerai pas. Voilà. Il n'a pas dit qu'il parlait au nom de Dieu. Je l'ai juré. Au nom de donc devant Dieu, donc au nom de l'Éternel, que je ne te tuerai pas. Voilà. Maintenant, est-ce que Dieu, admettons même que c'était Dieu, voilà, admettons que c'était Dieu, même si on doit aller jusqu'à ce cas-là, est-ce que Dieu a-t-il changé ? Moi, je pense que non. Moi, je pense que Shimei, c'était un personnage qui était mauvais et Dieu le savait. Et du temps de David, je pense que le Seigneur n'avait pas besoin de tuer Shimei parce que David avait une sagesse suffisante pour gérer Shimei. Sagesse et force intérieure par l'Esprit de Dieu suffisante pour gérer Shimei. Alors que Salomon venait nouvellement d'être roi et face à des gens comme Shimei, il ne faisait pas trop le poids. C'est pourquoi David... lui demande quand même de faire attention et d'agir le premier, de ne pas se faire surprendre. C'est à lui d'agir le premier, d'agir avec sagesse. Et je crois que David, là, est en train de donner à Salomon l'autorisation. Il faut savoir que moi, je n'ai pas reçu de le tuer, mais toi, tu es autorisé à le tuer. Voilà. Moi, je n'ai pas été convaincu de le tuer. Mais en ce qui te concerne, toi, tu es autorisé à le faire, mais tu agiras avec sagesse. Et c'est ce qui s'était passé. Donc ça n'a pas été une vengeance gratuite. « Ah, toi, tu as fait ça à mon père, je te tue. » Non. Il lui a donné une instruction. Il a dit, « Vu le passé, en tout cas, je te somme de rester à Jérusalem, tu ne bouges pas. Le jour où tu bouges de Jérusalem, tu sors, tu mourras. » Voilà l'instruction qu'il lui avait donnée. Ça n'a pas été une mort directe. Voilà. Oui.
C'est ce que je voulais compléter parce que moi de ce que j'ai c'est bien ce que j'ai compris parce que il le tue pas directement, c'est parce qu'il a en même temps désobéi qu'il le tue parce qu'il l'a interdit. Donc s'il désobéit une fois, c'est qu'il pouvait désobéir deux fois, trois fois. Donc la première fois, il le rate pas en fait.
Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc, il n'a pas raté dès la première fois à cause de l'avertissement de David. Il dit, il faut être sage avec lui, il faut sauter premier. Donc ne te laisse pas berner une fois, deux fois. Il faut être sage, c'est des gens qui doivent mourir et tu es autorisé à le faire en quelque sorte. Parce que Salomon pouvait dire, mais tiens, mon père ne l'a pas tué, moi non plus je ne le touche pas. Mais ça allait être un danger pour lui. David lui dit, il n'y a pas de souci. Tu peux le tuer dans la sagesse. Et j'ai entendu... Ouais, d'accord.
Moi, je comprends. J'ai du mal à comprendre que David... tu disais qu'il était bienveillant envers ces trois personnes. Et là, il dit à son fils de les supprimer. Donc on a moi ça me donne une impression un peu de alors soit il a il est c'était pas vraiment de la bienveillance, c'était peut-être de la faiblesse à ce moment-là. Parce que ça fait un peu contradictoire. Ça
bienveillant fait envers qui? Avec Shimei, envers Shimei.
Avec Shimei.
Parce qu'avec Joab, lui-même, il a dit clairement, il ne s'est pas caché. Il a dit que je suis faible par rapport à eux. Il ne s'est pas caché.
Alors avec Shimei, parce qu'il a quand même, même si ce n'est pas juré par Dieu, il a quand même juré devant Dieu.
Oui,
parce que
là, que lui joue... ne va pas le tuer. Elle n'allait pas le tuer.
Oui, mais on joue un peu avec les mots. Moi, je trouve, enfin, j'ai l'impression, enfin, je trouve que ce n'est pas clair sa façon de faire. Alors, soit peut-être, parce qu'en fait, en même temps, David, bon, bah, c'est aussi un homme. Bon, c'est sûr, c'est un homme qui était selon le cœur de Dieu, mais peut-être que, ou alors peut-être que je ne comprends pas, mais peut-être qu'il avait une certaine, il avait une faiblesse. Peut-être qu'il a changé d'avis aussi entre deux. Ça se trouve, il a changé d'avis.
Ah non, parce qu'il n'a pas tué Annabelle. Non, il n'a pas changé d'avis puisqu'il n'a pas tué. Jusqu'à la mort de David, Shimei est vivant.
Il avait pris un engagement. Moi, c'est l'engagement que je ne comprends pas.
Non, ce n'est pas lui qui le tue. Il dit à Salomon de s'en charger.
Oui, mais ça, c'est son fils quand même. Enfin, je veux dire, c'est comme si quelque part, il le faisait. C'est quelque part, il dit à son fils...
Non, ce n'est pas la même chose. Il dit, moi, j'avais pris... Je ne m'entends plus. J'avais pris l'engagement de ne pas le tuer. J'ai respecté. Mais toi... Tu peux le tuer. Voilà. C'est ça la différence. Il spécifie, moi, j'ai pris l'engagement.
Donc, il préfère que ce
mais
soit...
Mais mon engagement, ça me concerne, moi. En ce qui te concerne, toi, tu feras en sorte qu'il meure.
Donc, il préfère que ce soit son fils qui ait du sang sur
non,
les mains.
Non, ce n'est pas une préférence. C'est pour dire à Salomon, c'est mon engagement. Ça ne te concerne pas. Toi, agis. Concernant ton royaume, concernant ton temps. Ça, c'était mon engagement. Parce que Salomon pouvait rester sur cela et dire, du moment que mon père n'a pas tué ce monsieur, moi, je n'ai pas à le tuer. C'est pourquoi David lui dit, ah non, ça, c'était mon engagement. Du moment que je meurs, ça s'arrête avec moi. Avec toi, c'est autre chose. Et même moi, je te donne le conseil de le tuer. Voilà. Parce que c'est un homme méchant. Le problème, c'est quoi? Parce que tu fais toujours... tu comprends toujours pas, oui.
Je comprends pas que... qu'il prenne l'engagement de ne pas tuer et qu'il dise à son fils... Et en plus, j'ai pas l'impression qu'il le dise comme ça, qu'il dise, bon, bah, toi, fais comme tu veux. Il dit carrément...
Ah non, il n'a pas dit comme tu veux. Il dit, il faut que tu le... Voilà, tu dois le tuer, mais sois sage. Fais-le avec sagesse.
Ben, je comprends pas. En fait, pourquoi lui ne l'a pas fait, qu'il dit à son fils de le faire?
Mais puisqu'il n'a pas reçu de le faire, il n'a pas été convaincu de le faire. Et au fait, on ne tue pas gratuitement. Pour tuer, il faut une excuse. On ne peut pas tuer gratuitement parce qu'on t'a injurié. C'est de la vengeance.
Mais là c'est le même... S'il demande à ce qu'on tue Shimei, c'est pour la même raison.
Non, là, ce n'est pas à 100% ça. Il rappelle un fait à son fils. Dire, il rappelle des faits qui montrent la méchanceté du monsieur. Il m'a fait ça, ça, ça. Il m'a maudit. Voilà. Donc, toi, ne les laisse pas. On ne nous dit pas tout, mais toi, ne les laisse pas vivre. Mais ce n'est pas... C'est lié à lui, à Salomon. Parce que, on a dit, il y a double objectif. Il y a l'objectif stratégique en tant que roi et il y a le côté jugement de Dieu. Donc, je pense qu'il prononçait un jugement de Dieu. Et en même temps, il donnait un conseil stratégique à son fils. Attention, c'est un homme très dangereux. Ne le laisse pas comme ça. Ne le laisse pas comme ça. Mais tu agiras avec sagesse. Voilà. Mais tu agiras avec sagesse. Ce n'est pas avec la brutalité du vengeur, mais avec sagesse. Et c'est ce qui s'est passé. Shimei n'a pas été tué, il est dans son lit, on vient le tuer. Non, il y a eu un accord entre lui et Salomon. Et en disant, si tu ne respectes pas ça, tu meurs, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Donc ça a été réglo, mais tout en accomplissant le jugement qui devait être tué. Donc moi, je pense que David a été fidèle à sa parole jusqu'à sa mort, Shimei était vivant. Nous, il faut que ça nous interpelle sur un élément, c'est que Il ne faut pas croire que quand Dieu ne fait rien contre quelqu'un qui est méchant, qu'il ne fera toujours rien. Voilà. Ça, il faut s'en souvenir. Donc, ce n'est pas parce que Shimea a été laissée comme ça, ce n'est pas parce que Joab a été laissé comme ça, que ça allait continuer indéfiniment. Un jour ou l'autre, Dieu intervient. C'est ce qu'il faut comprendre à travers cet enseignement-là. C'est que le méchant, un jour ou l'autre, Dieu s'en occupera. Parfois, on a l'impression que, bon, les méchants prospèrent, ils sont tranquilles, ils ne sont pas inquiétés, on prie, ils sont toujours là. C'est faux. Un jour, Dieu s'en occupe. Et Shimei et Joab sont un exemple. Un jour, Dieu s'en est occupé. On a vu Joab tuer Abner. C'était déjà un grand coup contre David. David était très en colère. Il a tué Abner. Abner, c'était le chef de l'armée de Saül. Il a tué David. Il était déjà en colère ce jour-là. Et il répète encore avec Amasa, le chef de l'armée d'Absalom. David dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que fait cet homme-là? Ce n'est pas possible. Mais il se sentait faible vis-à-vis de lui et des autres, et de sa famille. Donc il n'a pas pu agir. Les spectateurs pouvaient dire, mais tiens, Joab arrive toujours à s'en sortir, il fait des coups d'état, il fait des trucs, il arrive toujours à s'en sortir. Ah non, un jour, il a été coincé. Donc le méchant finira par être coincé un jour. Il faut que ça soit clair. Oui? Ça marche, hein?
Ce que je comprends, c'est que David, lui, il a fait une erreur en prêtant serment.
Il aura quel pas serment dit,
ben, il a juré de ne pas faire tuer... Pour moi, en fait...
Non, de ne pas tuer.
Ouais, de ne pas le tuer. Mais indirectement, il tue...
Non, il n'a pas tué.
Non, mais indirectement.
Comment ça?
Puisqu'il dit à Salomon de ne pas les laisser...
Mais lui ne tue pas.
Oui,
quand David est mort, vous n'allez pas condamner quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort, Shimei est vivant. Comment peut-on dire que quelqu'un qui est mort a tué quelqu'un? Non. C'est Salomon qui a tué la personne.
Okay. Moi, ce que j'avais compris, c'est que c'est aussi par rapport au Nouveau Testament, ça nous apprend aussi de ne pas faire de serment, de ne pas jurer.
Mais David n'a pas échoué dans son serment.
Ah, d'accord.
Il n'a pas échoué puisqu'il n'a pas tué. Il est mort, il a laissé Shimei vivant. Il dit à Salomon, c'est pas moi qui vis en toi. Fais comme toi à ton tour différemment parce que voilà, ça c'était moi. Fais à ton tour différemment, mais tu useras de sagesse.
Mais Salomon, lui, il a rien à voir avec Shimei, il a aucune histoire, il a aucun problème.
Ah si, puisque Shimei s'est révélé être un méchant.
Vis-à-vis de David.
Mais oui, mais vis-à-vis de David, mais c'est un méchant. Le méchant va toujours agir méchamment. Est-ce qu'on a vu un méchant être seulement méchant contre une personne? Aujourd'hui, tu es roi. On t'explique que non. Quand Mitran était là, il y a un tel qui a voulu le tuer. Maintenant, toi, tu prends la place de Mitran. Le tel-là est toujours vivant là. Donc, tu vas dire, mais non, c'était Mitran, non. Mais il voulait tuer Mitran, pourquoi? Pour prendre le pouvoir. Ah donc, toi aussi tu as pris cette place-là, il cherchera à t'éliminer. Ce n'est pas une question de contre David. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut comprendre. David n'agit pas par rapport à lui, parce que si ce n'était pas par lui, il allait tuer Shimei. Et les gens allaient applaudir, puisque c'est les gens qui proposaient de tuer Shimei. C'est David qui a refusé. Si c'était juste par rapport à l'offense, par rapport à David, il allait le tuer. Mais là, lui, il meurt, il laisse Shimei vivant. Alors qu'il peut le tuer toujours. Jusqu'à ce moment-là, il pouvait le tuer. Faut pas oublier que David est roi. Saül était roi moins fort côté popularité que David. Mais Saül s'est permis de tuer des sacrificateurs. Gratuitement, juste parce qu'ils avaient donné du pain à David. Il les a tués gratuitement. Donc le roi pouvait faire tout ce qu'il voulait. Hein. Mais là, il ne le fait pas. Il dit, bon non, moi je n'ai pas la conviction de le tuer. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas pour moi. Mais Salomon, ne te dis pas dans ta tête, mon père ne l'a pas tué, moi aussi je ne vais pas le tuer. Ah non, à ton tour, il ne faut pas le lâcher. Voilà.
Le fait qu'il ait juré, Est-ce que ce n'est pas cela qui l'a bloqué à tuer Shimei?
Non, il n'était pas convaincu de le tuer. Parce que la vengeance, David l'a dit, vous savez, quand Saül le chassait, le pourchassait, David a dit, quand il n'a pas tué Saül, il a dit, la méchanceté appartient aux méchants. Ce n'est pas parce que Shimei m'a injurié que moi je vais le tuer, donc je vais devenir comme lui. David refusait d'être un méchant. C'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Comment à cette époque-là, quand tu es roi, tu fuis, on t'injurie par quelqu'un, quand tu récupères la royauté, tu ne fais rien. Il faut avoir le cœur de Dieu pour pouvoir agir comme ça. Donc David est resté fidèle à ce cœur-là jusqu'au bout. Mais il dit, Salomon, là, c'est maintenant ton gouvernement, ce n'est pas mon gouvernement. Tu n'es pas moi. Toi, à ton tour, ne laisse pas cet homme vivant. Mais tu agiras avec sagesse. Voilà. Conseil politique.
Une dernière question. Si la méchanceté appartient aux méchants, pourquoi il fait Salomon tuer Shimei?
Parce que c'est le jugement de Dieu.
Ah, d'accord, okay.
Ça ne veut pas dire que puisque Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand quelque chose est une, ça vient de Dieu, Dieu peut frapper quelqu'un, Dieu peut tuer quelqu'un. Oui?
Oui, pasteur. J'ai un peu du mal à saisir ce que tu dis dans le sens où on a l'impression que c'est le souhait de David quelque part. Et le fait de le dire à son fils, c'est comme si que il l'influençait à faire ça par la suite.
Mais oui, mais il ne se cache pas. Et lui dit clairement que tu ne le laisseras pas ses cheveux. Là, de ce côté-là, c'est clair. Il le dit clairement, tu le tueras. Si vous voulez qu'on emploie le mot terre à terre, il le dit clairement, il faut le tuer. Mais tu agiras avec sagesse. Il ne s'en cache pas.
Est-ce que, alors, par rapport à un cas pratique aujourd'hui, parfois aussi on a nos parents qui nous préviennent de certains membres de nos familles, par exemple de nos oncles, de tantes, enfin tout ce qui est au niveau familial, et qui, avec eux, ont vécu des choses compliquées, et te le redis à toi. Toi, peut-être qu'il n'a pas vécu la chose, mais ils te disent aussi, attention à ce genre de personnes, telle personne, attention. Donc, comment on doit se comporter alors face à ça? Est-ce qu'effectivement, on doit avoir cette attitude-là que peut-être Salomon a eue, que son père lui a dit par rapport à Shimei, de faire attention? Et,
oui, mais regardez, mais pour comprendre que David a bien parlé, c'est que Salomon n'est pas parti tuer Shimei. Si David avait dit à Salomon bêtement, il faut me venger, tue-le, dès que David meurt, Salomon envoie un général, un combattant, va tuer Shimei. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été un règlement politique. Donc Shimei, donc Salomon a mis une interdiction en disant à Shimei, tu restes à Jérusalem, tu ne bouges pas. Donc c'est comme ça. Au fait, pourquoi tu restes à Jérusalem? Pour que je te gère. Parce que si tu commences à aller à gauche, à droite, je ne sais pas quel coup tu vas me faire. Puisque tu as fait ceci à mon père. Donc c'est pour que tu demeures en vie, reste. C'est ce que nous on appelle aujourd'hui la résidence surveillée. Tu es en résidence surveillée, tu ne sors pas de la ville. Tu restes à Jérusalem. Voilà. Comme ça, tu es géré. Parce que si tu commences à aller à gauche, à droite, un jour on va apprendre qu'il y a un complot contre moi. Donc voilà. Par rapport à ce qui s'est passé autrefois, je ne veux pas. C'est ce qui s'est passé. Donc si Salomon, si on était dans le registre de la vengeance, déjà David lui-même pouvait tuer Shimei. Maintenant, admettons qu'il ait fait, selon certaines versions, une erreur de prestation de serment, de juré. Mais Salomon, tout de suite à la mort de David, il serait parti tuer Shimei. Non, son père lui a dit, tu agiras avec sagesse. Parce que son père connaissait les recommandations de Dieu. On ne peut pas tuer gratuitement. C'était ça le problème de David. Ce qu'il reproche à Joab, c'est quoi? Tu as tué gratuitement des gens. Ça ne se fait pas. Voilà. On ne peut pas le faire. Et Dieu a sanctionné David lorsque lui aussi avait tué gratuitement, il a tué son fils. Donc David était conscient qu'on ne peut pas tuer gratuitement. On peut tuer en temps de guerre, mais pas gratuitement. Alors il dit, Joab, ses péchés sont restés impunis. Donc il faut qu'il soit, ça soit, il faut qu'il y ait la punition de Dieu. Voilà, la sanction de Dieu. Et en ce qui concerne Shimei, il y a le côté politique, c'est un homme dangereux. Donc il ne faut pas que tu rêves. Tu ne seras vraiment un peuple vis-à-vis de lui que mort. C'est cela. Comme on dit, on lisait quand autrefois dans Lucky Luke, donc un bon Indien, c'est un Indien mort. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, cet homme-là ne sera bon que s'il est mort. Donc, mais agis avec sagesse. Oui, il y a deux. Derrière, on ne le voit pas. On pose des questions. Frère et Nathanaël. Oui.
Moi, je veux dire, c'est peut-être pour comprendre l'agissement de David. Peut-être qu'il faut qu'on regarde les choses de manière beaucoup plus prophétique. C'est-à-dire que David, c'est un type de Christ. Donc, le fait qu'il n'ait pas tué directement ses ennemis, les méchants, il a laissé à son fils le temps de le faire. C'est comme Christ lui-même. Il y a des méchants qui existent, mais quand on regarde bien dans la Bible, il dit c'est à la fin du monde, il enverra les anges jeter les méchants dans la fournaise ardente. C'est-à-dire que David a agi. Moi, je vois que c'est un type de Christ. Il y a le jugement qui est là, mais le jugement se passera qu'au temps voulu par Dieu. Il ne le fait pas lui-même.
Non, mais il ne le fait pas lui-même. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. C'est parce qu'il ne sent pas que c'est lui qui doit le faire. C'est tout. Même, puisque à la fin de ta crise, quand même, va envoyer...
Oui, il délègue les anges pour faire le
non,
jugement.
Non, il y aura une guerre là. Lui-même va s'occuper des gens. Il n'y a pas de problème pour ça. Dieu peut frapper lui-même directement. Il n'a pas forcément besoin des anges pour le faire. Mais c'est en son temps. David, en tant que prophète, comme tu le dis, savait que ce n'était pas lui qui devait faire ça. C'était son fils. Il lui donne ses recommandations. Parce que comment quelqu'un vient de donner des recommandations par rapport à l'obéissance à Dieu? Obéir à la parole. C'est toujours la même partie, comprenez? Qu'il n'y a pas d'erreur là. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un saut d'humeur. C'est clair, c'est un enchaînement. Il est en train de dire à Salomon, il faut obéir à Dieu, il faut obéir à ses commandements. Maintenant, un tel, tu ne le laisseras pas comme ça. C'est toujours les commandements de Dieu qui continuent. Il est en train de donner le message du Seigneur à Salomon. Il n'y a pas d'erreur. Il dit, il faut obéir à la parole, obéir aux instructions de Dieu, être fidèle à Dieu. Après, il lui dit, maintenant, tu ne laisseras pas Joab impuni. Il faut qu'il meure. Tu ne laisseras pas Shimei impuni. Il faut qu'il meure. C'est dans un enchaînement. Ce n'est pas à part. Ce n'est pas que d'un côté, il a prêché. Et puis, à un moment donné, dans la cuisine, il va dire autre chose. Non. Au même moment où il est en train de prêcher, de parler de Dieu à Salomon, il lui dit, après, il faut tuer Joab et Shimei. Donc, ça fait partie du message que Dieu lui a donné pour Salomon. C'est très clair. Moi, je ne vois pas de confusion dedans. C'est très, très clair. C'est le message que Dieu lui a donné pour Salomon. Dans 2 Samuel, au chapitre 23, qu'est-ce que David dit lorsqu'il commence à donner ses dernières paroles? C'est écrit, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaï. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. On se souvient de qui a dit ça encore. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais David dit la même phrase. L'Esprit du Seigneur parle par moi. Maintenant, il y a des gens qui ont le souvenir toujours des femmes de David, qui ont du mal à croire. Mais comment un tel homme peut se targuer d'un tel don, d'une telle... d'un tel statut, mais c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas nous qui décidons. Ça, c'est la difficulté qu'on a. On se dit, mais non, mais comment un homme qui a eu des femmes comme ça, qui a fait ça, après, il peut se targuer de dire, comme Jésus, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, mais ce n'est pas moi qui dis ça, ce n'est pas vous qui dites ça. C'est Dieu qui a laissé ça dans sa parole pour qu'une fois pour toutes, on accepte que David, c'est son homme. Maintenant, ça peut nous gêner, mais ça, c'est nous. Mais ça ne gêne pas celui qui envoie, le Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. C'est cela, bien-aimé. Vous savez, c'est écrit dans Psaume 8, c'est toujours le même David qui écrit le Psaume 8. Il dit, mais qui est l'homme pour que toi, tu penses à lui? Donc, David lui-même était surpris que Dieu l'utilise. Mais ça, ça fait partie des mystères de Dieu. Comment peux-tu l'utiliser, un homme pécheur? Mais ça, ce n'est pas votre problème. C'est lui qui a décidé d'utiliser cet homme-là. Maintenant, dire que quand on dit un homme pécheur, ça ne veut pas dire que David est un homme qui commettait le péché chaque jour. Non, il est dit de lui que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Attention, donc il était différent des autres hommes. Voilà. Et on a des démonstrations. Il suffit de comparer David et Saül, c'est tout craché, c'est tout clair que c'est deux humains différents. David n'a pas tué gratuitement, sauf quand il a eu le problème avec Bathsheba. Alors que même il avait tous les pouvoirs, il n'a pas tué Saül alors qu'il devait se venger. Il n'a pas tué Shimei, même à l'aller. Quand il fouillait, il pouvait tuer Shimei déjà, il n'a pas fait. Au retour, il n'a pas fait non plus, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on veut pour comprendre que c'était l'homme selon le cœur de Dieu? Maintenant que cet homme-là donne les instructions divines, il ne faut pas douter. Il donne les instructions, il dit qu'il faut obéir à Dieu. Voilà les recommandations. Shimei, tu ne le laisseras pas impuni. Mais il est en train de parler toujours par le même esprit, là. Toujours le même esprit. Il n'y a pas eu pause. Il n'y a pas eu de pause. C'est un enchaînement. Mais c'est difficile parce que dans notre tête, on dit Dieu est amour, mais Dieu jugera aussi. Et Dieu juge aussi. Il faut s'habituer à ces deux facettes de Dieu. Voilà. Donc, et il y a Jésus, en s'en allant, qui a pleuré sur Jérusalem en disant, eh bien, il y aura des massacres ici, il y aura des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé 40 ans après. Voilà. Donc, c'est pas, Jésus n'a pas que dit, tu aimeras ton prochain. Il a prophétisé des malheurs. Malheur à vous, pharisiens. Ainsi de suite, il l'a fait. Le prophète donne les jugements aussi de Dieu. Il faudrait s'en habituer. C'est peut-être la peur que ces jugements tombent sur nous qui nous fait rejeter ça. Mais non, le sang de l'agneau peut nous purifier de tout péché. On n'a pas à avoir peur. Oui, frère.
Oui, et je voulais dire que c'est pour aller dans le sens de ce que tu disais par rapport à David et Salomon. David n'a pas du tout le même caractère que Salomon. David, c'est un guerrier déjà premièrement. Et il montre bien que il obéit à Dieu, parce qu'en tant que guerrier, il aurait pu effectivement le massacrer, le fameux Shimei. Mais là où il y a aussi la prophétie, c'est comme s'il parlait à son fils en lui disant que cet homme-là est mauvais, et pour toi, il montrera aussi qu'il est désobéissant. Donc tu useras de sagesse pour effectivement l'éliminer, parce que c'est un mauvais. Mais moi qui suis guerrier, je ne l'ai pas tué, mais toi, tu le tueras, mais autrement, pas comme un guerrier, mais avec sagesse. Et c'est ce qui s'est passé, parce que quand il lui donne une interdiction, il la transgresse. Donc c'est en fait saisir l'occasion pour éliminer cette personne-là, tout simplement.
Mais moi, d'une comme manière ça légale, il meurt par sa propre faute. Chimie.
Voilà, il meurt pour ses propres fautes. En fait, il confirme confirme son mauvais comportement. Parce qu'il aurait pu être manifester la gratitude du fait que David ne l'ait pas tué et se dire, bon, c'est quand même le fils de David, s'il me donne une instruction, il faut que je la respecte. C'est comme si...
Il s'est dit, j'ai échappé à David, j'ai échappé aussi à Salomon.
Voilà, parce c'est que ça. Effectivement, on voit
comme
par la
beaucoup
suite
de méchants aujourd'hui
que Salomon, il fait un règne sans guerre. Hein. Alors que si ces personnes-là étaient restées, peut-être qu'il y aurait eu un règne avec guerre, mais comment est-ce que lui, il l'aurait géré, on ne sait pas. Puisqu'il n'est pas guerrier.
Ok. Alors, c'est vrai que, oui, Nathanaël.
Oui, je voulais juste ajouter, je pense que David avait vraiment la pensée de Dieu. Parce que dans mon idée à moi, Dieu pouvait juger d'une manière différente sans que David ait à intervenir par rapport à Shimei, par rapport à l'autre aussi. Maintenant, David avait tellement la relation avec Dieu qu'il avait la pensée de Dieu. C'est vraiment ce que je voulais souligner, quoi.
La pensée de Dieu ?
Oui, la pensée de Dieu, de sorte qu'il pouvait parler de ce qui pouvait arriver et puis, bon, ça allait s'accomplir, effectivement. Sinon...
Ah, d'accord. Il a parlé de ce qui allait arriver, quoi.
Oui.
OK. Mais j'ai entendu un pasteur américain prêcher ce message-là sur ce passage en critiquant David et en vantant Salomon. Alors, nous sommes en face de ce qui se passe tout le temps. C'est que l'homme aime toujours à se construire sa propre parole. Bien-aimé, nulle part Dieu dit que Salomon, c'est l'homme selon mon cœur. Ça me fait même mal de le dire, ce que je suis en train de dire là. Donc, s'il y a des gens qui décident que ce que Dieu a dit, c'est faux, mais c'est ce qu'eux constatent qui est bon. Et ce pasteur l'a prêché en disant David est un homme mauvais, méchant, un homme de guerre. Et il comparait David à George Bush. Et Salomon est un homme de paix. Voilà, avec Salomon, il y a eu 40 ans de paix, la prospérité, comme ils prêchent la prospérité, ces gens-là, les Américains. Donc, il y a eu 40 ans de paix, de prospérité. Vous voyez, c'est des blasphèmes. Moi, j'appelle ça le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est nier l'évidence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit clairement, bien aimé, ce n'est pas caché. Il le dit clairement, c'est l'homme selon mon cœur. Clairement. Et dans plusieurs autres passages, d'autres juifs disent de David que c'est l'ange de Dieu, l'envoyé de Dieu, loin de Dieu. David est le roi qui a été le plus aimé à cause de son intégrité. Alors il y a des prédicateurs qui se permettent de vouloir le diminuer juste à cause de l'histoire de Bathsheba. Non, bien-aimé, il faut faire attention, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Comme on a dit au début, respectons la parole de Dieu. Même si on ne la comprend pas totalement, mais respectons. Moi, je ne dis pas que nous n'ayons pas à réfléchir. Nous devons réfléchir, mais souvenons-nous que Dieu a toujours raison. Souvenons-nous toujours de cela, Dieu a toujours raison. Même si nous réfléchissons, quand on se souvient que Dieu a raison, on va en lisant chercher qu'est-ce qui va nous faire dire par rapport au cas que nous traitons que Dieu a quand même raison. Donc, je recommence en disant, David donnait des instructions sur l'amour pour Dieu, l'attachement à la parole de Dieu, l'attachement à la vérité et l'attachement à la loi de Moïse, en fait. Or, la loi de Moïse dit clairement qu'on ne tue pas gratuitement. Celui qui tue doit mourir lui aussi. Et Joab a tué gratuitement, il devait mourir. Donc, David lui sonne la sentence biblique. Shimei, David dit à l'autre, tu ne le laisseras pas impuni, il doit mourir. Moi, j'ai pris le serment de ne pas le tuer, j'ai fait le serment de ne pas le tuer, mais ça, c'est moi, par rapport à moi et l'Éternel. Maintenant, à ton tour, il faut le tuer, parce que c'est un homme méchant, en quelque sorte. En quelque sorte, il te fera aussi des problèmes. Mais tu agiras avec sagesse. De sorte que la suite nous montre que David n'a, à chaque fois, Salomon plutôt, n'a pas tué gratuitement. Il a tué en fonction des mauvais comportements manifestés par les gens qu'il a tués. Donc que ce soit Joab, Joab a fait encore un complot avec Adonija, et alors que le premier complot avait échoué, ben il l'a refait encore, et Salomon a tué à cause de ce complot, et Shimei, c'était à cause du fait de l'infraction. Il a enfreint l'interdiction qu'on lui avait imposée. Voilà. Donc, je voulais qu'on lise cette partie-là et qu'on en discute longuement parce qu'il y a des prédicateurs qui se permettent de descendre David à cause de ça. Et alors que il parlait par l'Esprit de Dieu et il n'est pas le premier à prophétiser des malheurs qui s'accomplissent. Oui.
On a déjà parlé de ce que je vais demander, mais je ne me souviens plus de la position qu'on a sur la peine capitale. Parce que, bon, Jésus dit qu'il est l'accomplissement de la parole et on doit se soumettre aux autorités. Les autorités, ils sont comme les personnes qui font le jugement de Dieu, etc. Donc, est-ce que, en tant que chrétien, on doit être pour ou contre la peine capitale aujourd'hui?
Moi, je pense que pour ou contre, du moment que la décision ne nous revient pas, moi, je dis, bon, pour ou contre, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que ce n'est pas nous qui décidons sur la peine de mort.
Ben, si jamais ils viennent à demander au peuple, on est pour, on est contre, on s'ils viennent à demander.
Bon, moi, je ne voterai pas ce genre de choses. Hein. Je parle pour moi. Hein.
Parce que Jésus dit qu'il est l'accomplissement de la parole. C'est difficile à... Parce qu'il y a des gens inconvertis qui peuvent dire, ben vous êtes des chrétiens, est-ce que faut que vous soyez comme dans l'Ancien Testament?
Voilà, il y a une question aussi qui veut intervenir.
Oui, mais on n'est plus sous la loi. Je veux dire, depuis la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce.
Et oui, mais
ce n'est pas du tout la même chose. Et oui, donc la grâce, c'est quoi? Est-ce que Jésus a dit, si quelqu'un a tué, il faut le tuer? Il ne l'a pas dit. C'est écrit nulle part. Donc,
d'accord.
On ne tue pas.
Non, mais on ne tue pas. Mais là, on n'est pas en train de parler de l'Église. Là. On parle de la France, des États-Unis, ce ne sont pas des églises.
Non, mais elle parle d'un. Imaginons qu'il y ait un référendum. Bon, en France, c'est une affaire réglée. Mais s'il y avait un référendum et que ce référendum, on nous dise êtes-vous pour la peine de mort, oui ou non, je pense qu'on peut se déterminer. Maintenant, on peut s'abstenir. Mais je veux dire, on peut aussi se déterminer, sachant que nous ne sommes plus sous la loi. C'est une affaire passée.
Oui, mais quand tu dis que nous ne sommes plus sous la loi, c'est nous, les chrétiens.
Mais le païen. Mais quelle est la position du chrétien? C'est ce que disait Ginette. Quelle est la position du chrétien dans cette affaire?
Oui, mais c'est pourquoi moi je dis que comme ça ne te concerne pas, ce n'est pas toi qui vas aller au tribunal. Ce n'est pas toi qui vas juger. Ta position, tu veux te mêler des affaires d'autrui. Le Seigneur a dit, nous n'avons pas à juger les gens du dehors. Donc nous, on doit juger ce qui se passe au milieu de nous. Si maintenant on tue mon frère, tu me dis, je dis, Christian, qu'est-ce que je dois faire? Pardonne. Ah, pas de problème. Tu es en train de parler à un chrétien.
Oui.
Je suis d'accord avec toi. Voilà, je pardonne. Okay. On a tué mon frère, mais je pardonne. Maintenant, nous, on n'a pas à nous mêler d'une gestion qui n'est pas à nous. C'est ça. Vas-y.
Je reviens sur la question de Ginette. Je pense qu'au-delà, par exemple, je veux dire, toutes les occasions de vote que nous avons à l'heure actuelle et que nous aurons, il faut qu'on se détermine. Maintenant, on peut voter blanc, c'est vrai, mais il faut se déterminer.
Non, pas forcément, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Je vais lire 1 Corinthiens 5. C'est écrit au verset 12. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Nous avons à discuter des choses que nous, on gère. Maintenant, ce que nous, on ne gère pas, on peut avoir des souhaits humains, parce que quand on sait que beaucoup de condamnés à mort, parfois, c'est des erreurs. On peut dire, mais non, on peut avoir des souhaits à dire, mais tiens, c'est pas quelque chose que j'aime, mais on ne peut pas utiliser la parole pour dire ma position... vient de la parole, parce que la parole ne gère pas ces gens-là. La parole nous gère, nous. Voilà, ces gens-là, ils sont gérés selon leurs règles, à eux. Donc nous, on ne juge pas les gens du dehors. Nous, on juge les gens qui connaissent la parole. Donc si au milieu de nous, quelqu'un a été frappé, on va lui dire pardonne. Si on a tué son enfant, on va lui dire pardonne toujours. Parce que nous, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce.
Mais...
Sous la loi, on autorisait d'aller se venger. Là, on ne nous autorise plus. Voilà, donc c'est ça. Donc maintenant, ce qui se passe au dehors, si nous on est impliqués, là, il faut qu'on se détermine, mais si on n'est pas impliqués, ce n'est pas nous qui sommes justes, ce n'est pas nous qui sommes ceci, cela. Donc après, maintenant, la question peut revenir, mais est-ce qu'un chrétien peut être un juge? Voilà, tout ça, et ça fait d'autres débats, oui.
En fait, c'est la réponse que tu viens de donner, enfin, et celle à laquelle... j'ai concouru en quelque sorte, c'est la question subsidiaire de Sandra tout à l'heure, qui disait si on a des membres de notre famille avec qui on a de gros problèmes, etc., quelle est notre attitude? Notre attitude, c'est le pardon.
C'est de pardonner, bien sûr, et de pardonner et de prier pour qu'ils changent. De prier pour qu'ils changent. Nous, on est dirigés par le Saint-Esprit. On n'est pas dirigés par les conseils de notre père ou de notre grand-père. Donc, on est dirigés par le Saint-Esprit. Si notre père ou notre grand-père dit, mais fais attention à ceci, fais attention à tel homme, à telle tante, à tel... On écoute et on gère. Donc, comme moi, j'ai l'habitude de dire, c'est une information, on met dans le placard et on attend qu'il y ait d'autres ingrédients pour gérer l'information. Voilà, donc par le Saint-Esprit. Mais on ne va pas obéir directement à tout cela. Parce que vous savez quels avertissements les Arabes, on leur donne par rapport aux Juifs et aux chrétiens. Ah, ben, si ils devaient obéir à tout ça à chaque fois, aucun Arabe ne va se convertir, ni aucun Juif ne va se convertir. Donc nous aussi, ne tombons pas dans ça. Quelqu'un d'autre a un micro ? Oui.
Oui, oui, je voulais revenir à la partie où David laisse les recommandations à Salomon. Moi, à la lecture de ce passage, j'avais eu l'impression que David, c'était comme une forme de vengeance, en fait. Je me suis demandé...
Oui, mais comme tu es venu en retard, parce que là, on a longtemps parlé de ça, et tu es venu en retard, donc c'est... ma conclusion, c'est que ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas de la vengeance parce que longuement, David donne une prédication à Salomon sur l'attachement à Dieu, l'attachement à la parole de Dieu. Donc nous pensons que c'est dans le même esprit qu'il donne aussi ces instructions-là. Parce que si tu veux utiliser le fait qu'il a dit « il m'a fait du mal », mais oui, mais là c'était pour montrer que Shimei était un homme mauvais. Voilà. Ce n'était pas pour dire « venge-moi ». Parce que comme Frère nous a fait observer, c'est que David était un guerrier. C'est lui qui avait la logique de tuer, la logique de se battre. Mais il n'a pas tué. Donc ça doit nous interpeller. Et il demande à celui qui n'est pas guerrier de le faire. Donc ça doit nous faire comprendre que là, vraiment, il agit selon Dieu. Parce que s'il devait agir selon lui, lui-même devait tuer. Et bien des rois ont fait ça sans qu'il y ait de graves conséquences. On a l'exemple de Saül. Il a tué les prêtres de Nob. C'était très grave, à tel point que les Juifs qui étaient avec Saül ont refusé de tuer les prêtres, les soldats qui étaient avec lui. Il a dit « tuez ces prêtres ». Les soldats juifs ont refusé parce qu'on ne tue pas un prêtre. Et c'était un étranger qui a tué les prêtres. Donc Saül avait fait quelque chose de grave, mais ça n'a pas eu de graves conséquences sur sa royauté d'une manière humaine. Il était toujours la roi. David, donc, en tuant Shimei, d'ailleurs, ce n'est pas lui-même qui demandait à tuer Shimei. C'est son entourage qui demandait à tuer Shimei. Ce n'est même pas David. Il pouvait fermer les yeux, il pouvait faire juste... celui qui n'a pas entendu. Et on le tuait. Mais donc, il tenait à ce qu'on ne le tue pas. Donc, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui conduit David dans cette affaire. Oui.
Mais par rapport à David aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Bon, on voit que David ne se vengeait pas, puisqu'il aurait pu se venger de Saül, il ne l'a pas fait. Et il ne faut pas oublier que David, c'était un berger. Donc, il agissait en tant que berger. Donc, il avait un exemple à donner. Et même si par rapport à Shimei et à Joab, il savait que c'était des menaces pour le pays et pour tout le peuple, c'était difficile pour lui aussi d'intervenir parce que ça aurait pu être perçu par les gens du peuple comme une vengeance et il aurait pu être donc vu par les autres comme quelqu'un qui était comme eux-mêmes.
Oui, mais ça c'est... il n'est qu'une seconde ou une troisième raison, mais la vraie raison, c'est que David ne voulait pas parce qu'il n'avait pas la conviction de se venger. Voilà. Comme il l'a fait pour Saül. Parce qu'à chaque fois, ce n'est pas David qui propose de tuer. C'est d'autres. Même pour Saül, c'est les autres qui lui disent, mais lui, il veut te tuer. Maintenant, nous, là, on le tue. Il dit non. Ce n'est jamais lui qui veut tuer, qui s'arrête. Donc, il est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est tout.
Mais
c'est ça la vraie raison.
On est d'accord avec le fait que David ne veut pas tuer ces hommes-là, mais n'empêche qu'il sait que ces hommes-là sont quand même des gens dangereux, pour pas seulement pour son fils, comme cher, mais pour le
pour Israël.
Pour ce que son fils va devoir faire comme choisi. Donc il sait bien que ces gens-là, c'est des gens qui doivent disparaître parce qu'ils sont un danger. Donc ils sont instables, mais je ne pense pas que David aurait pu le faire, même ne serait-ce que, même si je ne pense pas qu'il aurait pu le faire parce qu'il avait un témoignage aussi à donner.
Oui, c'est là où moi j'interviens pour l'histoire de témoignage, c'est comme s'il fait ça pour les autres. Non, David fondamentalement, il ne fait pas ça parce qu'il trouve que ce n'est pas bon. Ce n'est pas pour les autres. C'est comme si les autres n'étaient pas là, il n'y avait pas de témoin, il allait tuer en quelque sorte. Non,
c'est pas ça que je veux
dire. Ah oui, parce que quand tu dis pour le témoignage...
Non, voilà, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que David, on voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui se venge, parce qu'avec Saül, il aurait pu le faire. Il lui a même coupé un pan de son manteau. Il ne l'a pas fait. On voit bien. Mais même, David savait que même, il pouvait pas, même si on lui avait conseillé en lui disant attention, c'est des hommes dangereux, comme on lui a dit, tu Shimei, etc. Il pouvait pas se comporter avec ces hommes-là comme eux se comportaient avec les autres. Il pouvait pas faire la. Il pouvait pas se comporter de la même façon.
Mais il pouvait pas parce que lui, il était bon.
Mais c'est ça
tout.
Que je veux dire. Il pouvait pas se comporter comme eux. Il y avait ce lui en tant que aussi responsable de tout le peuple. Il pouvait pas agir n'importe comment. Il avait une façon d'agir qu'il devait faire attention.
Mais Saül, lui, l'a fait. Il était aussi responsable
Saül,
de tout.
Saül, c'était pas David.
Ah, mais c'est ça. Donc, c'est pour te revenir sur le fait qu'il ne l'a pas fait à cause de son cœur.
Mais oui, mais c'est ce que
c'est pas parce qu'il est roi, mais c'est parce que son cœur ne le portait pas à faire ce genre de choses. Et je préfère qu'on dise que s'il avait fait, ça pouvait agir sur son témoignage. Je suis d'accord. Mais dire qu'il n'a pas fait ça peut-être à cause de son témoignage, non. Il avait un cœur qui n'était pas porté à faire ce genre de choses. C'est pourquoi il a dit, la méchanceté appartient aux méchants. Donc lui, il n'est pas comme ça. Voilà, c'est la raison fondamentale qui fait que David n'a pas fait comme tout le monde.
Le fait de dire que, de peut-être souligner quelques faiblesses de David, que ce soit... Parce que en fait, on dit qu'il n'a pas... Comment dire? Il ne s'est pas vengé. Bon, il ne s'est pas vengé, bon... Ça n'enlève pas que David était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Moi, je le crois vraiment que c'était un prophète, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'était un homme. Parce que, bon, il a pas vengé, il s'est pas vengé de Shimei et de Joab, mais par contre, il a quand même tué. Il a quand même tué, de toute façon...
Il a tué pendant la guerre.
Pendant la guerre. Donc, il y a quand même eu puisque Dieu lui a dit, tu ne construiras pas mon temple, parce que tu as les mains. Donc, il a quand même eu cette faiblesse aussi. Mais c'est vrai que le fait...
Là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il est dit que c'était les guerres de l'Éternel. Mais, au fait, Dieu est quand même contre ça. Au fait, c'est des choses que Dieu supporte parce qu'on est sur terre. Il permet quand même qu'il y ait des guerres, il a permis qu'il y ait des guerres en son nom, mais ce n'est pas quelque chose que lui souhaite. Et à cause de ça, David a les mains ensanglantées. Là où je suis d'accord, c'est si vous dites que David a tué Uri gratuitement, c'est un grand péché, je suis d'accord avec cela, et il a payé le prix, son fils est mort. Voilà.
Mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de penser qu'éventuellement David, le fait de jurer devant l'Éternel quand même si Dieu finalement il accomplit son œuvre à travers David, puisque c'est son prophète, ça on le croit, ça, peut-être ça humanise, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, parce que je ne voudrais pas vous faire peur avec le mot humaniser, mais c'est vrai que finalement David c'était quand même un homme, et qui donc il avait ses faiblesses. Donc,
mais quelle faiblesse là? Je ne vois pas la faiblesse.
Alors peut-être, donc je ne suis pas sûre, mais peut-être que le fait de jurer devant Dieu qu'il ne tousserait pas à Shimei et que finalement quand même par rapport à Salomon, il lui dit de faire telle chose. Bon, c'est sûr, c'est dirigé par Dieu, puisque Dieu, tout ce que tu disais, ça n'annule pas tout ce que tu dis. Ça, c'est juste qu'il a peut-être fait une erreur, peut-être.
En faisant quoi?
Ben, en jurant devant Dieu qu'il ne tuerait pas Shimei.
Mais pourquoi une erreur? Parce que il faut comprendre que quand on fait une erreur comme ça, c'est qu'on a un intérêt derrière. Quel est l'intérêt de David de ne pas tuer Shimei au moment où il pouvait le tuer?
C'est pas forcément qu'il n'avait pas d'intérêt, c'est juste que peut-être sur le moment, comme tu dis, il avait cette... toi tu dis c'est de la bienveillance. Peut-être
oui,
qu'il a une certaine faiblesse. Peut-être qu'il aurait peut-être dû affermir son royaume. C'était peut-être pas forcément vu comme de la vengeance, mais ça aurait pu être, cet homme est nuisible, il est du
diable. Non, mais Annabelle, nos faiblesses, c'est toujours, il y a un intérêt derrière. Quand David ne tue pas Shimei, là où David aussi, le problème, c'est qu'il ne se cache même pas. Quand il n'attaque pas Joab, il le dit clairement, je me sens faible vis-à-vis de la famille de Tserouja. Il ne se cache pas. Mais pour Shimei, il n'y a aucune raison à part le fait qu'il n'est pas un vengeur, quelqu'un qui se venge. C'est tout. Parce que Shimei, ce n'est même pas lui qui veut le tuer. C'est tous ces généraux qui sont là qui disent, même à l'aller, moi je donne un exemple très simple. À l'aller, David était en train de fuir. Shimei l'injurait. Il pouvait considérer Shimei comme un ennemi, commençait déjà à le tuer en ce moment-là. Il n'a pas fait à l'aller. Au retour, Shimei vient le voir. Il ne le fait pas non plus. Ce n'est toujours pas David qui veut le tuer. Les gens qui l'entourent. Je ne vois pas, David pouvait dire, faites ce que vous pensez faire. Ils allaient le tuer tout de suite. Il n'y a pas un intérêt, il ne sauvait pas son royaume en ne tuant pas Shimei. Il n'y avait aucun intérêt sauf le fait que ce n'est pas son caractère. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas de ce genre-là à se venger.
Sinon, j'ai une question. Est-ce que nous, dans notre, à l'époque dans laquelle on vit, est-ce que Dieu, à l'image de ce qu'on vient voir, c'est toujours le même, en fait.
Il est toujours le même, Hébreux 13:8.
Donc, en fait, c'est un parallèle. Donc, en fait, il est...
Qu'il fallait qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que ça peut se faire comme Ananias et Saphira sont morts. Même chose que là, David dit, il faut tuer Shimei et l'autre. Mais l'Esprit aussi a dit à Pierre, ils meurent ces gens-là. Dis-leur. Et Pierre dit ce que l'Esprit lui a dit. Voilà. Donc, mais c'est en tant que prophète que Pierre le fait. Il donne le jugement de Dieu. Mais ce n'est pas Pierre qui décide qu'Ananias et Saphira meurent. Sinon, c'est le désordre. Voilà. Donc là, la vie ne peut pas être entre les mains des humains. La vie est entre les mains de Dieu. Mais comprenons que Dieu qui a agi comme ça avec Shimei et Joab, il est toujours comme ça aujourd'hui. Et il peut décréter des jugements, dire qu'un tel va mourir, telle chose va se passer, de malheureux, de difficile. C'est une réalité. Nous devons accepter ces deux côtés-là qui sont complémentaires de Dieu. Voilà. Donc, oui.
Oui, pasteur, je voulais poser la question. Nous, les chrétiens, on croit que Dieu est juste, mais pourquoi les jugements de Dieu, on a du mal à avaler, surtout si ça part au-delà où Dieu décide de tuer quelqu'un ou bien décide de faire un jugement lié à la mort. On a du mal un peu à avaler ça. On voit du côté que Dieu pardonne, Dieu est miséricorde et tout. Pourquoi non,
on voit ça à cause de l'œuvre de Christ, de la prédication de Jésus-Christ. Et on néglige le fait que Dieu n'est pas que le Dieu du Nouveau Testament. Tout l'Ancien Testament, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc il faudrait qu'on s'habitue à accepter toutes les Écritures. Toutes les Écritures. Ça, c'est toutes les Écritures qui nous montrent toute la nature de Dieu. Et à savoir que dans l'Ancien Testament, la bonté et la grâce de Dieu s'est manifestée déjà. Dans le Nouveau Testament, les jugements de Dieu aussi sont manifestés. Parce qu'il n'y a pas un livre qui fait peur plus qu'Apocalypse. Hein. Et c'est dans le Nouveau Testament. Donc c'est dans le Nouveau Testament qu'il y a l'Apocalypse. Donc Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il faut qu'on accepte ces deux côtés-là, qu'il est celui qui se manifeste dans sa grâce aujourd'hui, mais ses jugements sont possibles. Et il peut le faire aujourd'hui, mais il a réservé un jour de jugement spécial, le temps de la fin. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des jugements locaux et ponctuels. Ça n'empêche pas.
Ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que au moment où on résiste, soit on refuse un peu de recevoir ce jugement-là, est-ce que, sans le savoir, en nous, on rend un peu Dieu injuste?
Oui, donc il y a quelque part, on considère un peu que Dieu est injuste. Et souvent, on n'affronte pas l'Ancien Testament. S'il y a trop de morts, trop de cruauté, et on évite un peu de toucher à ça, d'en parler. Or, toutes ces morts, ces cruautés sont là pour nous dire une chose. Il y a le mal sur la terre. Souvenez-vous dans Genèse 6, si Dieu a envoyé le déluge, c'est écrit, bien-aimés, lisons tout. C'est écrit parce que Dieu n'était mécontent qu'il y ait la violence. Donc Dieu n'aime pas la violence. Dieu n'aime pas les tueries. Pourquoi David n'a pas construit le temple? Parce que il a utilisé la violence régulièrement. Donc ces éléments-là sont là pour nous dire, mais Dieu n'aime pas tout ça. Mais le péché a entraîné tout ça. Et même Dieu n'a pas le choix. Comment on sait que Dieu n'a pas le choix? Son propre fils a subi la violence. Donc on sait que Dieu n'a pas le choix. Il ne peut pas éviter la violence chez les humains. C'est comme ça, un jour, tout finira. Il n'y aura plus de cris, de guerre, il n'y aura plus de deuil. Apocalypse 21:4, il essuiera nos larmes. Mais pour le moment, nous sommes encore sur la terre où il y aura des violences, il y aura des injustices, il y aura des morts, il y aura tout ça. Voilà, ce n'est pas encore le paradis. Voilà, ce n'est pas encore le paradis. Oui ?
Pasteur, justement, par rapport à ce que Trésor vient de dire, moi, pour nous, c'est un peu plus simple, mais moi, j'ai été confrontée justement à cette situation sur le jugement de Dieu avec les enfants, où j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à leur expliquer, surtout aux tout petits, parce que j'étais tombée sur l'histoire où, Dieu juge, je crois que c'est Ouza, lorsqu'il essaye de rattraper l'Arche de l'Alliance, lorsque l'Arche de l'Alliance veut tomber. Lorsque David emmène l'arche vers Jérusalem et que sur le chemin l'arche veut tomber et qui rattrape alors qu'il n'est pas amené à toucher l'arche.
Oui, oui.
Du coup, ça a été très difficile à expliquer aux enfants parce que comment, en fait, là effectivement il y a le jugement de Dieu parce qu'il n'a pas le droit, il a désobéi, mais en même temps il voulait aider, enfin il voulait éviter que ça tombe. Du coup, comment en fait,
pour moi, l'explication est très simple. Hein. Donc, même quand on est dans de bonnes intentions, en dehors de la parole de Dieu, on est dans la malédiction.
Oui, ça, voilà. C'est le côté abstrait. Mais concrètement, comment je le dis à un enfant de 4 ans?
Donc, concrètement, c'est que si tu me donnes le poison dans la bonne, avec les bonnes intentions, tu me tues quand même.
Ah, merci, ma soeur.
Non, mais un enfant de 4 ans peut avoir le fer à repasser qui est chaud. Allez, il vient coller sur l'autre. Ah, mais il joue. Mais non, mais ça, c'est le fer.
Du coup, moi, enfin, voilà. je l'ai...
Oh, laissez-les jouer. On a l'habitude de dire, laissez-les jouer, c'est les enfants. Mais là, c'est le fer à repasser. C'est branché. Donc, on ne blague pas avec Dieu. C'est tout. On ne blague pas. Comme on l'a dit, on a l'habitude de voir des méchants s'en sortir. On croit qu'ils s'en sortiront toujours. Joab, il tue Avner, il tue Amasa. Maintenant, on le tue par Dieu. Ah, quand même. Mais oui, mais donc, après, nous sommes les premiers à dire, mais les méchants, ils s'en sortent toujours. Moi, j'ai vu les gens, moi, le premier, j'étais triste de voir Kadhafi, la façon dont il a été tué. Mais on est les premiers à dire, mais les dictateurs sont là. Moi, je ne fais que toute ma vie combattre les dictateurs. Maintenant, on tue un dictateur, je suis le premier à dire, ah, Kadhafi, quand même. Oh, mais Dieu ne nous comprend pas. Vous êtes le premier à dire les dictateurs sont mauvais. Maintenant, quand je tue un, ça devient un problème. Donc, c'est ça notre problème. Au fait, on n'est pas... Ça demande une profondeur spirituelle davantage pour comprendre la colère de Dieu.
D'accord. Du coup...
Voilà. La colère de Dieu, c'est aussi une grâce de Dieu qui doit nous faire pour bien saisir c'est quoi sa colère et on sera content de sa colère.
D'accord. Donc, du coup, parce que moi, j'ai focalisé du coup le passage sur l'obéissance. Donc, il faut aussi que je rajoute la partie jugement, alors.
Ah oui, oui. La partie jugement et la partie on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas. Même avec de bonnes intentions. Mais là, tu as une arme avec Dieu. On ne joue pas avec ça. Quelle est la prière que font les gens qui sont au ciel? Si vous vous souvenez d'une prière. Il y a des gens qui sont au ciel, ils font une prière à Dieu. Qu'est-ce qu'ils font comme prière? Non, mais que quelqu'un prenne le micro et nous dise la prière que ces gens-là qui sont au ciel, ils font. Non, mais que celui qui connaît prenne le micro et nous dise c'est quoi, on lève, voilà. Quelle est la prière que font les gens qui sont au ciel? À un moment donné, pour voir la différence entre celui qui est pur, qui comprend Dieu, et celui qui ne l'est pas comme nous. Nous ne sommes pas encore devenus parfaits pour comprendre Dieu totalement. Et les gens qui sont au ciel, qui comprennent Dieu complètement, quelle est la prière qu'ils font? Oui.
Je pense qu'ils disent, Seigneur, jusqu'à quand tardes-tu pour juger les habitants de la terre?
Et pour venger le sang des prophètes. Des gens. Donc les gens qui sont comme Dieu aujourd'hui, qui sont purs à 100%, c'est la prière qu'ils font. Parce qu'ils ont bien compris que c'est ça qui manifestera aussi que Dieu est Dieu en se vengeant et en manifestant sa colère. Nous, on ne comprend pas encore ça parce que c'est une colère qui est tellement immense que ce n'est pas à notre niveau. Nous, on a vu quand on était jeunes, tu dis à un petit qui t'a injuré, mais le jour où je t'aurai, tu vas voir ce que je vais te faire. Et le jour où il est en face de toi, oh mais excuse-moi, il commence à pleurer, toi-même tu perds toutes tes forces. Parce qu'on n'a pas non plus, de la même manière qu'on n'a pas le grand amour de Dieu, on n'a pas non plus sa grande colère. On est incapable. Donc on a des limites. Donc c'est ça aussi, c'est pourquoi on a du mal à saisir totalement le jugement et la colère. Moi avant j'avais du mal aussi, mais j'ai compris finalement que les guerres servaient à montrer que le véritable Dieu c'était le Dieu d'Israël. Donc les guerres étaient bénéfiques aux gens qui subissaient la guerre pour comprendre que c'est Dieu seul qui pouvait donner la victoire. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre, mais il suffit d'abord d'accepter que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne se trompe pas et on va recevoir les explications sur tout ce qui nous dépasse.
Pasteur, désolé d'insister, mais du coup, 4-5 ans, est-ce que ce n'est pas plutôt au plus grand que je peux rajouter ça à cet âge-là, je leur parle aussi du
jugement. Oui, on ne se moque pas de Dieu.
Mais ils vont comprendre.
Si, ils vont comprendre. Oui, oui. Mon fils, il a 4 ans, mais quand on doit prier, on ne le laisse pas s'asseoir comme il veut ou s'amuser. On dit, là, on va prier. Tu te tiens calme, il faut qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Ils vont comprendre. Mais quand on avertit par rapport au fait à repasser, ils comprennent, non? Ben voilà. Donc ils peuvent comprendre aussi si on avertit par rapport à Dieu.
C'est pas par rapport à ça. Je profite pour poser la question par rapport à ce que Nelisha dit. Parce que moi, j'étais confrontée aujourd'hui à une dame à l'école qui est musulmane et qui est venue chercher sa fille et elle me demanda, tu connais telle elle me demande une personne qui venait avant l'église et qui ne vient plus, moi je dis oui je connais et après le prophète me dit ouais, c'était pour te dire une fois ma fille m'a dit à la maison que Victoire a dit à l'école à ses copines, elle a dit vous tous vous irez en enfer parce que vous n'avez pas Jésus. Donc, et sa fille est rentrée à la maison, elle était bouleversée. Elle disait, oui, Victoire a dit, on va tous aller en enfer parce qu'on n'a pas Jésus en nous. Et donc moi, bon, sur le coup, franchement, j'ai balbutié. J'ai dit, oui, mais c'est la façon qu'elle a dit. Mais c'est vrai, c'est, selon les Écritures, c'est ça. Mais ce n'est pas une menace dans le sens où... Bon, j'ai balbutié quand même parce que j'ai trouvé... Je ne savais pas comment... Trop, comment.
Non, tu dis c'est ce qui est écrit dans la Bible.
Oui, j'ai dit c'est ce qui est écrit, mais bon, dire aux enfants de 6 ans, tu vas aller en enfer parce que.
Oh, mais c'est Victoire qui a dit, c'est pas toi.
Est-ce que je dois expliquer à Victoire comment la.
Non, il ne faut rien expliquer. Tu n'es pas son Dieu, il n'y a rien à expliquer. C'est entre Victoire et son Dieu. Voilà. Donc, chacun est utilisé par Dieu comme Dieu le veut. Si nous, on est des froussards, Dieu ne nous fait pas dire ces choses-là. Donc, laissons Dieu utiliser les courageux comme il veut. Voilà. Nous, les froussards, bon, on va dire Dieu t'aime. Il n'y a pas de problème. Donc, Dieu va utiliser chacun comme il veut. Voilà. Ok, nous finissons en disant David a manifesté à bien des gars que c'était un type de Christ. Déjà, le fait qu'il soit berger d'Israël, berger du peuple de Dieu, c'est ça aussi le titre du Messie. Le fait que David vienne après un autre. Vous savez, Jésus est appelé le dernier Adam, mais le second homme. Donc il n'y a que deux hommes sur terre. Il y a Adam et Jésus. Et donc le premier, c'était Adam, l'homme de la chair, et l'homme spirituel, c'est Jésus. Et avant, c'était Saül. David vit en deuxième position, vraiment type de Christ. On a vu la vie de David qui était une vie de sacrifice pour son peuple. Voilà. À plusieurs reprises, il pouvait se venger. Il n'a pas pu. Il n'a pas fait parce qu'il considérait que les gens qui étaient dans le camp ennemi, ça restait toujours son peuple. Donc il était prêt à sacrifier sa propre vie. Il n'a pas tué Saül alors que Saül cherchait à le tuer. Donc il a vraiment sacrifié sa vie pour son peuple jusqu'au bout. Il a vécu pour Israël. Et c'est ainsi qu'on peut voir vraiment que c'est le type de Christ. On voit que c'est un type de Christ parce qu'il est défenseur de son peuple. Il a défendu son peuple face à tous les ennemis, à commencer par Goliath. Il a défendu son peuple alors qu'il était encore très jeune. Et nous voyons que c'est un type de Christ lorsque nous réalisons son amour pour Dieu. Il est l'une des rares personnes sur terre qui ait aimé vraiment Dieu à ce niveau-là. Ils ne sont pas nombreux. Donc, qui ait aimé Dieu au niveau de David. Et c'est l'amour qui liait le Père et le Fils aussi, Jésus et son Père. Et il est type de Christ parce qu'il est roi d'Israël. Et c'est le titre que le Messie aussi, le Messie ça veut dire « oint de Dieu », donc le roi d'Israël. Et c'est le titre aussi de David. Et David nous a montré qu'il était aussi type de Christ parce que quand Pilate a vu Jésus, il a dit « voici l'homme ». Donc Pilate a prophétisé sans s'en rendre compte. Donc tous nos aînés, la plupart plutôt de nos aînés, nos prédécesseurs des années 100, 200, 300, 400, 1000, 400, 1300, ont interprété la phrase de Pilate, « voici l'homme » comme étant une prophétie. Donc Pilate disait « voici le véritable homme » en quelque sorte. Et Dieu, quand il parle à Saül de David, il dit « je me suis trouvé l'homme selon mon cœur ». Donc l'homme tel que moi je veux qu'il soit, je me le suis trouvé. Donc c'est là que ça montre encore que David était un avant-goût de Jésus-Christ, malgré le fait que il était un homme, c'est ça la différence avec Jésus, c'est que David n'a pas été vainqueur. Il n'a pas eu une victoire totale sur la chair, alors que Christ a eu une victoire totale sur la chair. Et Jésus est ressuscité, David est dans le tombeau, il attend d'être qu'on le rencontre au ciel quand on ira là-bas. Donc le jour dernier. Voilà une histoire extraordinaire et je pense que c'est une histoire que nous devrons relire souvent parce qu'on nous dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est ce que nous voulons être. Alors essayons de lire l'histoire de David pour comprendre pourquoi Dieu l'a tant aimé. Et nous retenons une chose la plus importante sur David, parce qu'on ne peut pas en parler trop sur Jésus concernant la foi. Est-ce qu'on peut parler de la foi concernant Jésus? Je ne pense pas trop. Mais c'est que David, sa grande valeur, c'est qu'il avait foi en Dieu. C'est ça la grande valeur de David. Ce n'est pas qu'il était pur, ce n'était pas qu'il était fort, mais il avait foi en Dieu. C'est ça notre thème, les héros de la foi. Et David est un vrai héros de la foi. Même, il a eu foi en Dieu à tous les niveaux, que ce soit pour vaincre les ennemis, que ce soit pour diriger son peuple, que ce soit pour devenir roi, parce que vous connaissez tous les problèmes, on a lu tous les problèmes qu'il a eu pour avant de devenir roi. Il avait toujours foi en Dieu, mais que ce soit aussi pour le pardon. Il y a des chrétiens qui ont foi en Dieu pour faire des exploits, mais ils n'ont pas foi en Dieu lorsqu'ils ont commis un péché que Dieu va pardonner. Ils sont déstabilisés et ils restent malheureux à jamais. Non, David avait eu foi aussi que malgré son péché, Dieu pouvait lui pardonner aussi. Ça aussi, c'est très important d'avoir cette foi-là. Parce que ça montre qu'il ne cherchait pas sa propre justice, mais il obtenait sa justice de la part de Dieu. Donc David, c'est un chrétien avant le temps. Il a vécu selon les principes du Nouveau Testament, sans avoir encore vu le Seigneur. Ça, c'est un exemple foudroyant de la puissance de Dieu. David est un exemple très, très puissant de la puissance de Dieu. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, si Dieu a la miséricorde envers Israël, c'est à cause de David. Vous savez, quand vous allez lire après, hein, il dit toujours aux enfants d'Israël, « Bon, je ne vous ferai pas ceci de mal à cause de mon serviteur de David. Vous méritez ça, 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 mais à cause de David, je ne vous fais pas ça. » Donc quand Dieu répète tout le temps le nom de quelqu'un, attention bien-aimé. Donc il dit toujours aux enfants d'Israël, c'est à cause de David. Et aujourd'hui, même les Juifs, là où le premier ministre parle, ils appellent ça le King David's Throne. Donc c'est le trône du roi David. Là où le premier ministre, quand il doit faire un discours, il parle, c'est le trône du roi David. David, c'est un personnage très très important pour les chrétiens et pour les Juifs et dans la Bible. Donc nous devons vraiment essayer de mieux le cerner, mieux le comprendre, et nous verrons combien il ressemble au personnage le plus important de tous les temps, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que Dieu nous bénisse et que Prions que nous puissions imiter ces deux-là, David et Jésus. Seigneur, nous venons prier pour te remercier de nous avoir. On a l'habitude de dire merci de nous avoir envoyé ton fils Jésus. Mais aujourd'hui, nous permettons de dire merci aussi de nous avoir envoyé ton roi David. Merci de l'avoir suscité au temps où il a été sur terre pour qu'il soit un exemple pour nous, une démonstration de ta gloire, une démonstration de ta puissance, qu'il soit un modèle sur lequel nous pouvons maintenant aussi nous intéresser pour imiter et faire ta volonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à continuer à creuser dans ta parole pour tirer les bonnes conclusions, pour mener une vie chrétienne de victoire. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse.